Bonjour à vous et bienvenue à votre cours éthique, votre curieux cours d'éthique, éthique et professionnalisme, votre curieux cours d'été. Hein, cet été, vous avez pris cette sage ou moins sage décision. Là, c'est selon, il y en a plusieurs qui trouvent que c'est beaucoup de travail quand même, un cours d'été. Bienvenue à votre cours éthique et professionnalisme. Nous en sommes à la cinquième rencontre, comme ça, en ligne, via la classe virtuelle, via le podcast aussi, évidemment. Bienvenue à ce module. Cette semaine, je vous présente le module 7 seulement. C'est un module qui est relativement court, je dirais, mais les thèmes abordés sont denses, sont importants. Donc, je me permets d'en faire un court résumé aujourd'hui, mais je vous invite évidemment à aller consulter le contenu de cours. Alors, je vois que Valérie Roberge, mon auxiliaire, vient de se brancher. Je la salue bien bas. J'espère que vous avez écouté le dernier épisode du podcast avec Francis Lehoux, donc un ancien étudiant du cours éthique et professionnalisme. Il y en aura plusieurs des épisodes de ce genre. C'est toujours fascinant de voir les interventions de ces étudiants-là, pas seulement là, pour les liens qu'ils tissent avec le cours, là, mais les entendre témoigner de l'expérience terrain, du travail pour vous, là. Si vous cherchez des employeurs potentiels, si vous voyez, vous voulez savoir saisir un peu mieux à quoi ça ressemble la réalité du travail, le terrain, ben, ces entrevues-là là, pourront vous intéresser. Il y en aura une autre, probablement un autre épisode la semaine prochaine, mais pour l'instant, je vous invite à aller écouter l'épisode de Francis Lehoux. Merci pour vos TP. Bon, c'est reçu, c'est corrigé, j'y ai passé une bonne partie de la semaine, 44 travaux, c'est du temps, j'ai pris le temps de les lire évidemment, de les commenter lorsque je pouvais, lorsque j'avais à dire aussi, il y en a plusieurs qui n'avaient pas grand-chose à ajouter là, sur quelques paragraphes. Je me suis permis aussi pour tous, évidemment, de compléter la grille d'évaluation, mais aussi de vous faire un commentaire audio. Je vous invite à aller écouter ce commentaire audio. Donc, j'en ai fait un pour chaque travail. Puis ça, pour essayer de clarifier certains éléments, pourquoi vous avez perdu quelques dixièmes ça et là, puis surtout là, pour bien vous faire, vous transmettre le ton de ces commentaires-là. Évidemment, là, c'est des commentaires qui non seulement se veulent constructif, mais c'est des commentaires qui se veulent aussi utiles parce qu'éventuellement, si votre TP1 est mal adapté, vous allez avoir de la difficulté avec le TP2. Donc, d'où l'importance là, de partir du bon pied puis écouter ces quelques commentaires. Donc, je vous ai envoyé tout ça, les corrections. Évidemment, il y aura des... c'est difficile, hein? Valérie l'a déjà fait, corriger les TP2, le corriger un travail, c'est un exercice qui est toujours difficile, délicat. Je vous invite à vous mettre à notre place. Ce qu'on fait, là, c'est jamais mal intentionné. On regarde les critères, on regarde le travail, on essaie de voir dans quelle mesure vous avez atteint les critères. Donc, si jamais vous vous sentez injustement noté ou trop sévèrement noté, écrivez-moi un court courriel clair, précis, là, dans lequel vous inscrivez le critère pour lequel vous avez été injustement noté, la note que vous auriez méritée pour ce même critère et surtout pourquoi vous mériteriez un accroissement de cette note. Donc, très simple, salut, pour le critère X, il me semble qu'on aurait mérité plus, on aurait mérité plutôt telle note, puis voici pourquoi. Puis à ce moment-là, moi, ça me permet de lire, revisiter votre TP1 en question, puis voir si effectivement vous méritez un accroissement de la note. Et ça, cette formule-là sera vraie aussi pour le TP2. Donc, à la fin de la session, le TP2 est plus substantiel. Valérie va faire son gros possible pour vous donner la note la plus juste possible. Mais encore une fois, c'est difficile, c'est délicat, c'est long, c'est compliqué. Donc, à la fin, évitez les courriels avec les points d'exclamation, là, puis Les émotions, puis tout ça, là, on comprend tout ça, mais le but, quand on vous donne une note, nous, c'est vraiment d'être le plus juste possible. Donc, faites juste nous écrire quels critères, pourquoi, pour quelles raisons, combien vous auriez mérité, puis on verra au besoin si il faut l'accroître ou la réduire, peut-être des fois après révision, mais je dirais que la plupart du temps, c'est on acquiesce à votre demande ou non. Là, j'ai jamais trop vu là, de révision là, à la baisse. Donc, c'est la procédure que je vous propose pour ce TP1 et c'est la même que je vous proposerai pour le TP2. Donc, parlant de TP2, c'est le moment, c'est go. Vous avez votre TP1, il est corrigé en équipe. Maintenant, il vous reste à passer à travers la grille d'analyse et éventuellement prendre cette grille d'analyse qu'on appelle la grille de Legault dans ce cas et la joindre en annexe à votre rapport décisionnel. Donc, rédiger un rapport, j'y reviendrai peut-être là, sur la structure, mais je dirais dans le commentaire audio que je vous ai transmis, allez voir, je vous répète cette structure. Donc, il y a des éléments importants là, pour vous guider dans la rédaction de ce TP2. Je vous rappelle aujourd'hui, à la fin de ce cours, il y aura un caout. Donc, c'est un caout récapitulatif. J'ai savamment conçu ce caout-là. J'aime bien les caouts. Je n'ai pas toujours le temps, surtout ici avec cette formule-là à distance, mais je me disais qu'une fois dans l'été, un petit caout pour se détendre, il y a toujours une espèce d'étrange étrange atmosphère et compétition épique, je dirais. Tout à coup, là, la classe est en feu. On n'aura pas exactement cette même rumeur, cette même. En tout cas, peut-être qu'on va la sentir à distance, là, mais je suis convaincu que chez vous, il y en a plusieurs qui vont trembler et transpirer un peu des mains en tentant de répondre à ce caout. Mais c'est ce que je vous ai réservé pour la fin de cette session virtuelle. Donc, le caout ne sera accessible qu'à ceux et celles là, qui sont présents aujourd'hui. Présente aussi. Donc, nous sommes 44 en ce moment. Donc, si vous êtes 44, il y aura 44 participants. Les thèmes du cours aujourd'hui, donc la responsabilité professionnelle et le jugement professionnel. Hein, qu'est-ce que ça veut dire être responsable? Je dirais que c'est la principale question qu'on va aborder dans ce module, mais aussi qu'est-ce que le jugement? Donc, des deux mots. Lourd, riche, plein de sens, deux expressions pleines de sens, être responsable et exercer un jugement. On aura plusieurs exemples, mais commençons par le terme responsable. Le terme responsable, vous allez l'entendre à plusieurs reprises dans l'exercice de votre profession. Soyez responsable, être responsable, responsabilité professionnelle, responsabilité civile. Responsabilité criminelle. La question reste entière. Là, si on vous demande, soyez responsable, typiquement, on a des préconceptions, une précompréhension, je dirais, de ce qu'est être responsable, mais dès qu'on pose la question, du moins dès que je pose cette question-là en classe, on voit que les réponses ne fusent pas de toutes parts. C'est difficile de définir ce genre de thème. Il y a Sébastien Deschênes qui faisait référence à un étudiant, un de vos collaborateurs, un de vos collègues dans cette classe, hein, qui nous rappelait là, l'utilisation de ce terme dans un de vos films, de nos films de Marvel préférés, là, donc Spider-Man ou l'oncle Ben. Là, on ne parle pas du riz, là, l'oncle Ben, mais on parle plutôt de l'oncle Ben Parker, l'oncle de... Peter Parker qui lui dit ben mon grand, oublie pas que de grands pouvoirs engendrent de grandes responsabilités. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour Peter Parker à être responsable? J'ai pensé aborder ce thème-là via cette citation parce que ça me permet d'expliciter. Qu'est-ce qu'on veut dire par responsable, d'une part, mais aussi revenir sur une thématique qu'on a vue au module 2, c'est-à-dire l'éthique de la vertu. Hein, il y en a pour plusieurs d'entre vous, en tout cas lorsque je regarde vos contributions, lorsqu'on parle de conséquentialisme, ça semble assez bien compris. Lorsqu'on parle de déontologisme, ça semble assez bien compris. Mais l'éthique de la vertu, c'est toujours ce qui est le plus difficilement compris, conçu. Donc, cette expression-là, elle est intéressante, ne serait-ce que pour revisiter cette éthique de la vertu. Hein? D'abord, la question du terme, lorsqu'on dit un grand pouvoir engendre de grandes responsabilités, la question du pouvoir est un peu plus est un peu plus simple, je dirais. C'est-à-dire que c'est Peter Parker a acquis une nouvelle force, une nouvelle agilité, un nouveau sens de la perception là, qui est décuplé. Mais comme vous, hein, c'est-à-dire que ce pouvoir nouvellement acquis, hein, vous, bientôt, ce sera le pouvoir de la connaissance, le pouvoir d'un nouveau bac en sciences et génie, tout ça vous donne une capacité d'agir accrue. Hein, comparativement à d'autres, vous avez désormais un pouvoir, c'est-à-dire une capacité d'agir accrue. Et cette capacité d'agir accrue engendre une responsabilité accrue. Donc, on arrive au deuxième thème, responsabilité. En soi, responsable. C'est ce que l'oncle Ben dit à Peter. Sois responsable. Soyez. Je pourrais vous dire la même chose. Soyez responsable. En éthique de la vertu, vous voyez, là, c'est une injonction. Donc, être responsable. Soyez responsable. Mais dès qu'on pose, dès qu'on fait cette injonction, ça se transforme en question. Hein? Si je vous dis « soyez responsable », pour vous comme pour Peter d'ailleurs, ça se transforme. C'est-à-dire que je veux être responsable, mais qu'est-ce qu'être responsable? À chaque fois que Peter va rencontrer un problème, il va se dire « qu'est-ce qu'être responsable devant ce fait, devant ce geste, devant cette personne? Qu'est-ce qu'être responsable? » Donc, c'est un terme qui tranquillement se transforme en question. Hein, d'ailleurs, le terme « question » et « quête », c'est à peu près les mêmes origines. Donc, tout à coup, cette question-là va devenir la quête de Peter Parker. Hein, sa plus grande quête, ce ne sera pas de définir la responsabilité, ça va être de tenter d'être responsable en étant guidé par cette grande valeur qu'est la responsabilité. L'éthique de la vertu, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on ne répond jamais à la question. On vous dira « sois responsable ». Qu'est-ce qu'être responsable? L'éthique de la vertu ne vous dira pas exactement c'est quoi. Ça restera flou. Mais l'éthique de la vertu va vous répondre « agis de la façon ». Être responsable, ce serait faire en éthique de la vertu. Ce serait faire et agir comme Peter Parker l'aurait fait dans ce contexte, pour tenter d'être responsable, hein, ou comme l'aurait souhaité l'oncle Ben. Donc, c'est une réponse qui est inspirante en éthique de la vertu. Sois responsable. Qu'est-ce qu'être responsable? C'est agir exactement de la même façon que Peter Parker aurait agi devant cette situation. Donc, la responsabilité, elle est incarnée. C'est pas quelque chose qu'on définit, puis on corrige notre comportement, puis on s'aligne en fonction de la définition qu'on nous a donnée. Non, il n'y a pas de définition claire, mais ce qu'on sait, c'est que la responsabilité, elle est incarnée dans cette personne. Puis pour être guidé par la responsabilité, c'est essayer d'agir comme cette personne qui incarne la vertu ici, qui a la responsabilité. Donc ça ressemble un peu à ça, l'éthique de la vertu. Donc, vous voyez, il y a une espèce de circularité qui n'est pas toujours utile là, en éthique appliquée. On préfère le conséquentialisme. Bien, c'est plus simple. On calcule les conséquences positives, négatives, où on s'aligne là, en déontologie. S'il y a des règles, il y a des devoirs, puis je me conforme à ces devoirs et obligations. L'éthique de la vertu, c'est un peu plus compliqué. Ça vous dit « agis en fonction de telles valeurs », que ce soit la protection du public, la dignité, la vérité, hein? Mais qu'est-ce que la vérité, la dignité, l'honnêteté? Ça, c'est plus difficile. Il faut trouver des modèles. Il faut trouver de quelle façon cette valeur-là s'incarne, donne sens à la vie d'une personne, puis essayer de plaquer nos comportements en s'inspirant, je dirais, de ces personnes qui incarnent cette valeur. OK, donc j'ai fait le tour de l'éthique de la vertu, mais ça me permet quand même d'introduire le thème cette semaine qui est celui de la responsabilité. Je me permets quand même, vous allez le voir dans le contenu de cours, une définition de la responsabilité parce qu'il faut quand même donner un contenu. On ne peut pas aujourd'hui se contenter de cette circularité là, propre à l'éthique de la vertu. Ça prend un contenu qui est un peu plus explicite. Lorsqu'on parle de la responsabilité, Concrètement, aujourd'hui, dans l'exercice de votre profession, par exemple, il y a deux sens auxquels on renvoie typiquement. Il y a la responsabilité rétrospective. Donc, habituellement, on peut même utiliser comme synonyme le terme imputabilité. Donc, je suis responsable. Ça veut dire que je suis imputable. Je suis responsable. Ça veut dire que s'il y a un problème, imputable, on peut pointer. Imputable, on peut pointer son doigt vers moi. Si ça va bien, je suis imputable. C'est moi qui prends le mérite. Si ça va mal, je suis imputable. C'est moi qui prends le blâme. Donc, rétrospective. En droit, on utilise souvent ce sens-là. Vous allez voir la responsabilité civile, criminelle, c'est exactement ce sens-là. Il y a une faute, il y a eu un crime, il y a eu un dommage. On pointe vers la personne. Tu es imputable et donc tu dois assumer la responsabilité. Donc ça, on verra ce premier sens. Et le deuxième sens, c'est la responsabilité prospective. Donc on ne regarde pas en arrière ce que tu as accompli, mais on regarde plutôt en avant. Qu'est-ce que tu devras accomplir? Ne serait-ce que par ton rôle, par ce que tu es, par ce que tu représentes. Voilà la responsabilité, voilà ton rôle. Il y a une somme de devoirs et obligations qui sont rattachés à ce rôle. L'exemple que je donne souvent, c'est la responsabilité paternelle, par exemple. Tu n'as rien accompli encore, à part avoir un enfant. Puis déjà, il y a des devoirs et obligations qui accompagnent ce rôle. Du seul fait d'être un père, d'assumer ce rôle, il y a des devoirs et obligations qui accompagnent tout ça. Donc, c'est le café là, qui joue dans la gorge. J'aurais dû prendre un verre d'eau comme d'habitude. Donc, responsabilité prospective rattachée au rôle. Qu'est-ce qui m'attend? Quels sont les devoirs et obligations rattachés à ce rôle qu'on m'a attribué? Puis essayer de le remplir de la meilleure des façons. Donc, il y a ces deux sens. Rétrospective, on regarde en arrière ce qui a été fait. Donc, il y a un sens. Responsabilité, c'est aussi ça. Responsabilité, ça veut dire répondre. Respondere, ça veut dire répondre de. Puis responsabilité, le second sens, qui est prospectif, en avant, devant moi. Pour vous, la responsabilité professionnelle, c'est un peu ça. Il y a un objet devant vous qui s'appelle la protection du public. De cet objet, le public là, qui est devant moi, il y a des rôles et des devoirs, des obligations qui accompagnent ce rôle. Donc ça, c'est les deux principaux sens qu'on pourrait rattacher au terme responsabilité. Il y en a d'autres. Je vous invite à consulter le contenu de cours pour bien vous familiariser avec ces différents sens. Il y a des objectifs liés à ce module 7. Les deux premiers sont liés au terme responsabilité. Donc, un, expliquer quels sont les trois principaux régimes de responsabilité. Je vous en ai déjà parlé. Là, ici, c'est de la responsabilité rétrospective. On parle de responsabilité criminelle, civile, disciplinaire. On se contentera de ces trois formes de responsabilité. Le deuxième objectif, expliquer quelles sont les responsabilités prospectives du professionnel. Donc, aller un peu, réfléchir un peu sur le rôle, à quoi il sert socialement ce professionnel, quelles sont les attentes, à quoi ressemblent ses devoirs et obligations professionnelles. Donc, se projeter un peu en avant, voir ce à quoi on s'attend, ce à quoi les professionnels s'attendent de leurs collègues, ce à quoi le public s'attend du professionnel. Et dernier objectif de ce module, définir le jugement professionnel. Donc ça, ce serait notre deuxième grand thème du cours du module 7, la question du jugement. Qu'est-ce que le jugement? Qu'est-ce que manquer de jugement? Pourquoi avez-vous du jugement? Qu'est-ce qu'on veut dire lorsqu'on dit « cette personne-là » elle a un bon jugement, elle n'a pas de jugement, elle manque de jugement. Qu'est-ce qu'on veut dire par cette expression? C'est une expression qui va souvent être utilisée dans l'exercice de votre profession. Le jugement professionnel, c'est au cœur de l'exercice de votre profession. Mais qu'est-ce qu'on veut dire exactement par jugement? Ça ne sera pas clarifié dans votre code de déontologie professionnelle. On va vous contenter de vous dire utilisez votre jugement professionnel avec parcimonie, assurez-vous qu'il soit juste, mais on ne vous dira pas exactement ce qu'est le jugement. Donc, on prend le temps dans ce module de réfléchir sur le jugement. Dans le module, vous allez voir, on revient assez loin là, sur en philosophie, c'est sûr que c'est un objet qui a été pensé, réfléchi, articulé de plusieurs façons par plusieurs philosophes. Aristote, par exemple, pour lui, le jugement, c'est assez simple, mais en même temps, ils ont toujours des formulations peut-être un peu plus complexes. C'est l'acte de prédiquer une chose. Hein, donc, associer à cette chose un prédicat, c'est-à-dire telle chose, mais c'est surtout des thèmes là, qui reviennent. Cette chose est belle, cette chose est vraie, cette chose est juste, cette chose est bien. Donc, quand on arrive avec des prédicats qui ressemblent à ça, beau, vrai, juste, bien, on est en train de juger. Et juger, vous ne cessez de juger. C'est-à-dire que notre vie, on a le jugement facile, je dirais, promenez-vous sur Facebook, Instagram, puis tout ça, on ne fait que juger. Hein, on voit quelque chose, tiens, elle présente son chat, et qui est beau mon chat, puis là tu dis, bon, es-tu vraiment beau? Pas si beau que ça, hein, qu'est-ce que le beau? Mais si on le formule de façon philosophique, on dirait qu'est-ce que le beau, mais dans la réalité, ça ressemble plus à bon, pas si beau que ça. Cet énoncé est vrai. Donc, tout le monde prétend avoir la vérité. Avez-vous vu telle chose, je pense que si, je pense que ça. Et ça, c'est vrai, ça, c'est faux. Ah, mais il y a une question sous-jacente, qu'est-ce que la vérité? Il y a un jugement qui est énoncé, cette chose est vraie, mais comment s'assurer que le jugement est bon? Comment s'assurer ou comment accroître la qualité de ce jugement lorsqu'on arrive pour prédiquer une chose et dire qu'elle est vraie? Cette décision est juste. On regarde les décisions du premier ministre en ce moment. Est-ce qu'elle est juste? Est-ce qu'elle est juste? Toutes les fois qu'il y a une décision qui est prise, c'est injuste. C'est injuste pour moi, c'est injuste pour elle. Qu'est-ce que la justice? C'est quoi la conception de la justice qui se cache derrière tout ça? Et la dernière, donc ce geste est bien. Ce qu'elle a fait, c'est bien. Ce qu'il a dit, c'est bien. Le geste posé par ce policier est mal. Ah, pour reprendre un peu des éléments de l'actualité, mais ça pose la question, qu'est-ce que le bien? Qu'est-ce que le mal? C'est plus compliqué que simplement dire c'est bien, c'est mal. Là, il y a des questions qui se cachent derrière ces jugements. C'est important de comprendre, c'est que le jugement se dessine toujours autour d'un grand contexte d'incertitude. S'il y a des certitudes, il n'y a pas vraiment d'exercice du jugement qui est possible. Dès qu'il y a une zone d'incertitude, lorsqu'on arrive pour se prononcer, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est bien? Et s'il y a une zone d'incertitude rattachée à ça, nécessairement, il y aura exercice du jugement. Dans le contexte de la COVID-19, encore, là, est peuplé de zones d'incertitude. Il y en a plein. Hein, quoi faire dans ce contexte? Je dirais que ça fait 2 mois que tout le monde se promène en zone d'incertitude avec un grand I. Confiné, oui. Pourquoi? Pour quelle raison? Déconfiné, oui. Pourquoi? Pour quelle raison? À quel rythme? Pour quelle raison? Pourquoi? Donc, on est sans cesse dans cette zone d'incertitude et à ce moment-là, il y a l'exercice du jugement. On va puiser dans ces zones d'incertitude où on va juger pour, dans le COVID-19, entre deux études contradictoires. Donc, même si vous êtes savant, connaissant, vous connaissez la science, la médecine, la virologie, tout ça, il y aura quand même, à quelque part, deux études qui ne disent pas exactement la même chose. Et ça prendra du jugement pour trancher, séparer le bon grain de l'ivraie. Hein? Donc, essayer de voir... Là, parmi ces études, lesquelles sont pertinentes, lesquelles sont plus pertinentes que les autres. Il y a des zones d'incertitude lorsqu'on arrive en ce moment pour choisir des valeurs qui sont en opposition. Santé publique, liberté individuelle, qui tranche? Est-ce qu'il y a vraiment des certitudes pour trancher lorsque ces deux grandes valeurs sont en opposition? Entre deux conceptions de la santé publique. Donc, est-ce qu'on privilégie davantage une santé publique qui se fonde sur le curatif, la médecine à ce moment-là? Bon, on cible exactement la santé publique, on la réduit au traitement, un vaccin, une maladie, ou est-ce qu'on étend la conception de santé publique à quelque chose qui dépasse ces concepts en intégrant la prévention, l'éthique du care, prendre soin des problèmes psychologiques, psychosociaux, suicide, tout à coup, la conception de la santé publique. On peut avoir deux conceptions, deux personnes compétentes avec une conception de la santé publique qui diffère. On a une zone d'incertitude, puis à ce moment-là, s'il y a une décision qui doit être prise, nécessairement, elle va se placer dans cette zone d'incertitude. Il y en a plein des décisions de la sorte en ce moment. Hein? Deux résultats attendus sur la santé humaine. Deux principes importants qui sont en tension, en contradiction, santé publique. En ce moment, il y a les applications là, qui vous suivent, là, les applications là, qui peuvent vous tracer sur GPS, savoir une fois que tu as contracté le virus, tu rentres ton application, puis on te suit, puis il y a toute cette tension-là entre la santé publique d'un côté et la vie privée. Hein, deux principes qui se valent, évidemment, qui sont en tension, en opposition. Puis à la fin, hein, il y aura quelqu'un qui prendra une décision. Peut-être que ça sera vous. Donc, on remettra le poids de cette décision-là entre vos mains. Est-ce que j'accepte ou non d'installer cette application? Puis là, vous aurez cette tension-là entre santé publique, votre vie privée. Puis à ce moment-là, vous pourrez trancher dans cette zone d'incertitude. Au contraire, comme dans certains pays, bien, c'est l'autorité en place qui tranche cette zone d'incertitude, qui exerce le jugement à la place de vous et moi, puis qui décide où on va trancher entre ces deux grands principes que sont la santé publique, la vie privée, liberté individuelle, santé publique, c'en est une autre, une tension. Mais c'est dans ces zones délicates où peut s'exercer le jugement. Si vous voulez reconnaître quelqu'un qui manque de jugement, c'est simple. Hein, c'est celui qui vous dit que ses questions sont simples et que lui a une réponse qui est simple et que ce sont les autres qui n'ont rien compris. Ça, c'est un bel indice là, d'un jugement en grande souffrance. Donc, si pour lui, les questions sont simples, les réponses sont simples, il y a des indices ici qu'il y a peut-être des errances en matière de jugement. On le verra dans le module, le jugement peut errer de plusieurs façons. Même si vous faites confiance à votre jugement, vous avez l'impression que votre jugement est juste et bon, sachez-le, et on va le dire aussi dans plusieurs des modules qui vont suivre, il y a des limites biologiques. Donc, ce que vous êtes biologiquement, ça peut nuire à l'exercice de votre jugement. On va en donner des exemples. Psychologiquement, il y a des limites psychologiques, des limites de l'ordre de psychosocial. Psycho, ça fait un drôle de son dans mon micro. Psychosocial, donc des biais, par exemple, à votre insu, hein, on a toutes sortes de biais qui influencent notre jugement. On tente, évidemment, d'exercer un bon jugement, mais parfois, ce que nous sommes, nos failles, que ce soit des failles psychologiques, biologiques, psychosociales, influencent l'exercice de ce jugement. Et il n'y a pas pire ignorant, on va voir, on va essayer de démystifier tout ça, essayer de vous aider à identifier ces limites-là, là, hein, ces failles, identifier déjà nos propres failles. On vous demande d'exercer votre jugement professionnel, on va tenter ensemble d'identifier les quelques principales failles qui peuvent nuire à l'exercice de votre jugement. Alors, ici, dans le module ici, mais dans les autres modules qui vont suivre aussi. Et pourquoi faire ça? Parce qu'il n'y a pas pire ignorant et incompétent, okay, que celui qui ignore ses propres zones d'ignorance et incompétence. Déjà, si vous les connaissez, hein, vous connaissez vos ignorances, vous connaissez vos incompétences, vous êtes capable de les identifier, bon, au moins vous avancez en connaissance de cause. Vous savez, vous connaissez mieux vos risques personnels, les risques sociaux, les risques associés à votre communauté. Puis à ce moment-là, peut-être mettre en place des mesures, des correctifs qui permettront d'éviter les risques que vous avez vous-même identifiés. Le jugement peut errer, ce sera le deuxième thème de ce module. Explorer ce qu'on veut dire par le jugement. Il y a un objectif de ce module 7 qui est rattaché à ça. Définir ce qu'est le jugement professionnel. Êtes-vous capable de le définir? Expliquer la valeur du jugement professionnel au sein de l'exercice de votre profession. Expliquer la place qu'occupe le jugement professionnel au sein de votre profession. à la place qu'il occupe dans les règles, la place qu'il occupe sur le terrain. C'est-à-dire que même si on dit que l'exercice de votre jugement professionnel est important, est au cœur de l'exercice de votre profession, qu'en est-il dans la réalité sur le terrain? Est-ce qu'on fait confiance à votre jugement professionnel ou au contraire, on le balise, on le dresse, on l'automatise et tout à coup, on écarte hein, l'exercice du jugement de votre profession. Donc ça fera partie des réflexions que nous allons aborder dans ce module 7. La marche à suivre cette semaine, c'est écrit module 6, c'est au module 7, vous avez compris. Maintenant, vous connaissez bien la marche à suivre. Je me permettrai de ne pas vous la en faire mention ici, vous irez voir la marche à suivre. J'attire simplement votre attention sur le texte de Luc Bégin. Donc, c'est un rapport sur l'effondrement du viaduc de la Concorde. Donc, un diagnostic éthique qui avait été dressé à l'époque. Très intéressant, surtout si vous intéressez un peu au génie civil. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce fameux viaduc de la Concorde et quels sont les principales failles éthiques qu'on a identifiées lorsque le viaduc en question s'est effondré. Donc, c'est une approche qui n'est pas technique, c'est une approche qui est éthique. En même temps, elle est faite avec une grande rigueur. Donc, je vous invite à aller consulter ce texte de Luc Bégin. Voilà, c'est tout. C'est ce que je voulais aborder aujourd'hui. En fait, ce sera tout pour ceux qui nous écoutent en ce moment via podcast. Mais ce ne sera pas tout pour ceux qui sont en classe synchrone parce que j'ai préparé pour vous un caout qui sera évidemment épique. Je vous invite à rester en ligne. Dans quelques minutes, on va commencer ça. Mais pour les autres, je vous souhaite une excellente semaine. On ne lâche pas, l'été avance, il fait un peu plus chaud cette semaine. On est bien aujourd'hui, il fait frais. Prenez soin de vous, de vos proches. Puis voilà, allez, bye bye.